6h, 8h, Matin Première.
7h47, une des figures du monde de la gauche francophone, Jean-Pascal Labi, est l'invité de la matinale. Avant les élections, il avait plaidé pour un changement de cap. Qu'en est-il plus d'un mois et demi plus tard? Les négociations fédérales sont au point mort. La sécurité sociale sera-t-elle l'otage de l'impasse politique? Le patron des mutualités socialistes répond tout de suite à vos questions, Thomas Gadis.
Bonjour Jean-Pascal Labi.
Bonjour.
Le trou de la sécu sociale est plus lourd que prévu, 1,5 milliard d'euros. Le problème sera beaucoup plus aigu d'ailleurs encore les années suivantes. C'est ce qui ressort du rapport du comité de gestion de la sécu sociale de ce mois de juillet. Vous êtes le patron des mutualités socialistes. Alors, question très concrète, en quoi cela a des conséquences pour nous, patients et bénéficiaires de soins?
D'abord, je suis inquiet pour le budget de l'État, qui n'est pas à l'équilibre globalement. Donc, ça aura des répercussions, puisqu'à l'horizon 2021, l'équilibre devrait être là, et c'est un effort de 11 milliards qu'il y aura à faire. On allait voir ce qu'on allait voir avec ce gouvernement, mais on le voit. C'est un déficit extrêmement important. Sur la sécurité sociale, c'est effectivement un déficit d'1,5 milliard en 2019 et on annonce plus de 2 milliards en 2020, avec un problème en matière de soins de santé. Vous savez, le problème, il est assez simple à expliquer. On a un budget qui progresse de 1,5% chaque année et le Bureau fédéral du plan, ce n'est pas un organe crypto-communiste qu'on peut critiquer comme cela, dit que les dépenses de soins de santé augmentent naturellement de 2,5% par an. Il ne faut pas avoir fait de grandes études mathématiques pour comprendre qu'il y a un problème. C'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est des déremboursements d'un certain nombre de médicaments, c'est des médecins qui ne sont plus conventionnés, c'est-à-dire vous n'avez plus la sécurité tarifaire chez ces médecins. Ce sont des suppléments d'honoraires qui ont été réclamés et qui ont explosé dans les hôpitaux. Ça, c'est du très concret que les gens vivent tous les jours. Et dans le secteur des indemnités, c'est la fragilisation des allocataires sociaux, des allocations sociales qui sont versées déjà à des plus faibles. On a diminué les montants qui ont été versés à ces personnes. C'est tout cela les conséquences très concrètes du fait de ne pas octroyer aux soins de santé, à la sécurité sociale, les budgets suffisants.
Et pourtant, on sort d'une campagne électorale avec plein de promesses, notamment le Parti Socialiste qui avait plaidé pour la gratuité du médecin généraliste, des dentistes, des psychologues. Est-ce que du coup, c'est des promesses impayables, ça?
Non, c'est pas du tout des promesses impayables. C'est d'ailleurs une de nos revendications importantes. J'en ai plusieurs, mais celle-là est la première. C'est de faciliter l'accessibilité en première ligne, aux soins de base en première ligne. Et le médecin généraliste, les maisons médicales, les dentistes, etc., sont des éléments extrêmement importants. Et ça, ça coûte grosso modo 600 millions d'euros.
Mais c'est du coup, est-ce que c'est possible, pas paradoxal avec ce qu'on vient de dire, avec la situation du budget, de la sécurité sociale et des soins de santé?
Non, il faut dégager les moyens suffisants que pour financer la sécurité sociale. Il y avait en son temps une dotation d'équilibre qui remettait la sécurité sociale.
Pour bien qu'on comprenne, c'est un mécanisme, une loi qui renfloue du coup le trou de la sécurité sociale.
Tout à fait.
On est obligé de le remplir.
C'est une loi qui était prise sous le Tonkelings. On a supprimé cette dotation d'équilibre. Le financement alternatif, quand on octroie des réductions de cotisations sociales, forcément on a moins de cotisations sociales pour financer la sécurité sociale. On ne finance même pas l'ensemble des réductions de cotisations sociales qui vont atteindre plus de 11 milliards d'euros en rythme de croisière. C'est quand même des montants importants. Donc, ce pourquoi je plaide, c'est vraiment un financement suffisant de la sécurité sociale et donc des soins de santé pour permettre un certain nombre d'éléments.
J'ai évoqué les soins de base. Avec des nouvelles recettes.
Oui, bien sûr, j'ai évoqué les soins de base, j'évoque aussi les malades chroniques et le vieillissement de la population, la réforme des hôpitaux, les médicaments innovants, ce sont tous des éléments extrêmement importants. Les allocations sociales, on est dans un pays merveilleux. Merveilleux, on fixe un seuil de pauvreté et puis on fixe le montant d'allocations sociales en dessous du seuil de pauvreté. Franchement, il y a une incohérence totale qu'il faut aujourd'hui remettre sur la table et refinancer la sécurité sociale comme elle l'a été par le passé et comme elle doit l'être. La sécurité sociale, c'est le ciment de ce pays. Le jour où on met le confédéralisme sur la table, c'est la sécurité sociale qui est sur la table. Ne nous trompons pas de débat par rapport à cela. Or, on sait déjà que la situation budgétaire, on vient de l'évoquer, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, que ce soit au niveau des soins de santé, les trajectoires budgétaires en région wallonne, pour ne prendre qu'un autre exemple, sont aussi extrêmement compliquées. Une loi spéciale de financement va voir le jour entre 2024 et 2034. On va perdre 10% de dotation chaque année en région
wallonne. C'est entre guillemets la fin des transferts d'une partie du mécanisme de
Absolument.
Solidarité entre
Donc c'est vraiment, je plaide vraiment pour qu'on remette ces éléments-là sur la table et qu'on au travers de ces éléments-là, on puisse élaborer une forme de pacte entre les différents partenaires qui seront autour de la table. C'est comme cela que je pense qu'on pourra avancer, on pourra à la fois répondre aux problèmes immédiats des gens, mais aussi leur octroyer de l'espérance et de l'avenir. Nous devons absolument, et c'est le rôle de la société civile, c'est lire le court terme à la lumière du long terme. C'est absolument indispensable aujourd'hui.
Jean-Pascal Labi, vous dites on doit avancer, or on sait que c'est une impasse politique pour l'instant devant nous, c'est un blocage total, il ne se passe strictement rien au niveau fédéral. Est-ce que du coup, la sécurité sociale, cette question-là de la sécurité sociale va être l'otage des négociations politiques? Ça va être une variable d'ajustement politique?
J'espère que ce ne sera pas le cas, mais ça pourrait être le cas dans des petits jeux politiques. Moi, ce pourquoi je plaide aujourd'hui, c'est vraiment qu'on prenne de la hauteur et qu'on retrouve le sens du long terme. Et on ne retrouvera le sens du long terme, de la hauteur et le règlement des problèmes très concrets des gens qu'en mettant un certain nombre de partis qui veulent avancer pour la construction d'une société plus juste et plus digne.
On a vu dans la campagne la NVA remettre en cause la concertation sociale. Vous parlez d'un grand pacte comme l'après-guerre, comme on a construit la sécurité sociale. Est-ce que vous avez l'impression que les partis, les formations politiques, honneur et au site, sont capables de se réunir autour d'un tel pacte? Là, on n'est même pas capable de démarrer des négociations.
Alors, je pense que ça va dépendre de l'attitude d'un certain nombre de partis. On a connu d'autres époques où ces solutions pouvaient être mises sur la table et on pouvait avancer en sécurisant, c'est le cas de le dire, la sécurité sociale. J'espère qu'on va retrouver ce sens de l'intérêt général, de l'intérêt aussi et de la difficulté que connaissent les gens pour octroyer des solutions aujourd'hui à toutes ces personnes.
Il y a des appels qui viennent de différents milieux pour que les deux grandes formations, à savoir le Parti Socialiste, vous faites partie, et la NVA au nord du pays, se réunissent, commencent à discuter, peu importe, mais qu'à un moment donné, il y a un début de dialogue. On devra passer par cette case-là, selon vous?
Écoutez, moi je ne vois pas ce dont on va pouvoir parler avec la NVA. Quand la NVA établit ses lignes de conduite avec le Vlaams Belang aujourd'hui, et puis dit maintenant je vais discuter avec les autres, je ne vois pas ce dont on va pouvoir parler à un moment donné avec la NVA. Je pense qu'il y a d'autres partis démocratiques, et ce ne sera pas facile. Si c'était facile, ça serait déjà fait. Ce ne sera évidemment pas facile. Et les deux, que ce soit M. Reinders ou M. Van de Lanotte aujourd'hui, ont une tâche extrêmement compliquée. Et je pense qu'il faut les laisser travailler. Il faut surtout garder ses nerfs dans cette situation-ci.
En fait, il faut attendre, quoi.
Il faut un peu attendre, il faut garder ses nerfs.
Mais je pense que c'est vraiment ça. Bruxelles,
mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas d'attendre et de garder ses nerfs, mais de mettre en place les balises qui sont nécessaires à la construction de cette société que nous voulons demain. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un train fou. On est à la fin d'un cycle économique aujourd'hui, qui est né fin des années 70, début 80. C'est cela, le premier enseignement des élections, c'est cela pour moi. C'est la fin de ce cycle-là, et on doit retrouver aujourd'hui la construction d'un autre cycle, et ça dépasse une seule législature. Et c'est la raison pour laquelle la société civile est extrêmement importante dans ce cadre-là, parce qu'elle, elle intègre toujours le temps long et à la fois le temps court, parce qu'elle est confrontée aux difficultés des gens. Mais c'est vraiment cela qu'on doit retrouver.
Si vous insistez sur cette société civile, c'est forcément en référence avec le travail qui a été fait entre le Parti Socialiste écolo dans cette note qu'on a qualifiée de coquelicot. Elle a été instrumentalisée, cette société civile, ou pas? On en a vraiment tenu compte pour finir?
Non, certainement pas.
Au final, on vole quand même avec les libéraux?
Je pense que la société civile est suffisamment mûre pour ne pas se laisser instrumentaliser. C'est une technique qui a été utilisée, qui existait déjà lors de la confection des gouvernements précédents, mais on a travaillé un peu plus en amont cette fois-ci, un peu plus en profondeur. On a pu alimenter une première note qui va servir de base à la confection d'une déclaration de politique gouvernementale. Mais il n'y a eu aucune instrumentalisation.
Vous aviez plaidé avant les élections, avec le président de la FGTB notamment, pour qu'il y ait un changement de cap politique, un vrai virage, entre guillemets.
Je plaide toujours pour cela.
Avec une coalition PS écolo et MR, on change de cap?
Alors, après, il y a la mathématique qui entre en ligne de compte. Je pense qu'il y a un axe fort qui a été établi entre le PS et Écolo. Je ne vais pas revenir sur les partis, pour des raisons diverses d'ailleurs, qui se sont dit on va se retirer du jeu ou on n'entre même pas dans le jeu pour l'un de ces partis. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'il y aura dans les déclarations de politique gouvernementale. Je pense que les gens, ils ont besoin de solutions aujourd'hui aux problèmes qu'ils rencontrent et ils ont besoin qu'on leur recrée de l'espoir.
Donc il faut du pragmatisme, peu importe les conditions.
Il faudra certainement du réalisme. Mais il ne faut pas aller au pouvoir pour le pouvoir. Je pense qu'il y a des lignes rouges qui devront être mises et que si, in fine, la déclaration de politique régionale, région wallonne, venait à détricoter entièrement la note qui a été faite par le PS et par Écolo, je pense qu'il y aura à un moment donné une responsabilité à prendre. Ça ne sert à rien d'aller au pouvoir pour faire des politiques qui ne correspondent pas à celles que vous défendez par ailleurs. Ce qui s'est passé entre PS et Écolo, ce sont des convergences. Ce qui va se passer avec le MR maintenant et ce qui est en train de se passer, ce sont des compromis. Compromis ne veut pas dire compromission, certainement pas d'ailleurs. Il y a des lignes rouges qui doivent être mises, notamment sur le plan social, et on ne peut pas évidemment accepter n'importe quoi pour aller au pouvoir.
Si vous faites cette nuance, c'est qu'il y a de la méfiance.
Bien sûr qu'il y a de la méfiance. On sort d'une législature quand même extrêmement compliquée, avec la NVA et le MR au pouvoir. Maintenant, j'entends d'autres voix au MR. J'entends celle de Christine Defraigne, j'entends celle de Jean-Luc Cruc. Ça, c'est des voix qui portent un autre message. On verra s'il est possible de trouver un accord avec eux. Mais cette législature, elle a été destructrice sur le plan de la sécurité sociale. Elle a été destructrice sur le plan de nos libertés. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'aux mutualités, Mme De Blocq nous a obligés de constituer des plateformes de dénonciation de fraude sociale ? Qu'on demande maintenant aux facteurs d'aller contrôler ceux qui sont bénéficiaires de la grappa s'ils sont là.
Vous êtes opposé d'ailleurs à cette plateforme. Il y a des recours, donc vous êtes prêt à vous faire pénaliser entre
guillemets. Absolument. Si on veut nous pénaliser, elle le fera, si elle peut encore le faire. Mais en tout cas, je n'accepterai jamais, jamais que la mutualité Solidaris soit l'intermédiaire de dénonciation de fraude sociale.
Jean-Pascal Labille, vous évoquiez ce gouvernement fédéral destructeur selon vous. Vous avez cogné durant toute cette législature sur notamment...
Et on le fera encore, quel que soit le gouvernement, si nous considérons que nous devons le faire.
Ça veut dire que le PS doit être dans ce gouvernement pour faire changer les lignes, ou dans l'opposition, c'est aussi imaginable ?
Alors, je pense que le PS est un parti, et écolo à cette facette aussi, est un parti qui défend la sécurité sociale. La sécurité sociale est vraiment un des éléments importants du programme du Parti socialiste. Nous avons fait état de nos revendications, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, et il y en a d'autres hein, sur le plan social. On pourrait parler aussi de l'emploi ou des pensions. Nous avons fait part de toutes ces revendications et nous entendons évidemment les défendre jusqu'au bout.
Alors, juste une dernière question. Vous êtes à l'origine aussi d'une réflexion qui s'appelle « Ceci n'est pas une crise » sur la manière de faire de la politique. Et vous êtes liégeois. Il y a des affaires qui continuent encore de rythmer la vie politique liégeoise, notamment avec la bourgmestre de Verviers, Muriel Tarnion, empêtrée dans certaines affaires de mandat. Et là, on apprend encore dans la presse ce matin que il y aurait des liens encore, des prêts qui auraient été faits entre Ogeofond, un des fonds de pension liégeois, avec des structures de Bernard Tapie. Quand est-ce qu'à un moment donné, ça va changer la manière de faire de la politique à Liège ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Il y a des hommes à Liège, des hommes et des femmes à Liège qui sont de vrais hommes et de vraies femmes politiques qui ont de la hauteur et qui savent assurer des missions d'intérêt général. Mais je pense qu'il est temps de nettoyer complètement ce dossier pour passer à autre chose, parce que je pense que la politique mérite autre chose que cela.
Je plaide pour un nouveau financement de la Sécu. La sécurité sociale, c'est le ciment de ce pays. Il faut retrouver le sens du long terme. Déclaration ce matin de Jean-Pascal Labille, invité de la matinale. Merci à vous Jean-Pascal Labille et bonne journée. 7h59, bonjour Sophie Brems.
Bonjour Pascal,
et
bonjour à tous.
C'est parti pour Jour Première.
Oui, et ce matin dans Jour Première, on va vous parler de lui. Écoutez ses cours.
Mr. Bond. James Bond.
Enfin, plutôt
c'est
d'elle.
07.
Voilà. Mais savez-vous que le prochain James Bond...